Chasseur de vieux. Roberto Saggini, administrateur d'une petite fabrique de papier, 46 ans, les cheveux gris, bel homme, arrêta son auto à quelques pas d'un bar tabac encore ouvert, on ne sait trop par quelle chance. Il était 2 heures du matin. Une minute, je reviens tout de suite, dit-il à la jeune femme assise près de lui. C'était un beau brin de fille, à la lumière des réverbères, au néon, son rouge à lèvres se détachait comme une fleur épanouie. Devant le tabac, plusieurs voitures étaient garées. Il avait dû s'arrêter un peu plus loin. C'était un soir de mai, l'air printanier était tiède et vif à la fois. Toutes les rues étaient désertes. Il entra au bar, acheta des cigarettes. Comme il était sur le pas de la porte et s'apprêtait à rejoindre sa voiture, un appel sinistre résonna. Est-ce qu'il venait de la maison d'en face, d'une rue latérale, ou bien ces créatures surgissaient-elles de l'asphalte? 2, 3, 5, 7 silhouettes rapides fondirent concentriquement en direction de la voiture. « Allez, tombez-lui dessus !» Et là-dessus, un coup de sifflet prolongé, modulé, la fanfare de guerre de ces jeunes canailles. Aux heures les plus imprévues de la nuit, ce signal tirait de leur sommeil des quartiers entiers et des gens frissonnants se pelotonnaient encore plus dans leur lit en priant Dieu pour le malheureux dont le lynchage commençait. Roberto mesura le danger. C'est à lui qu'ils en avaient. On vivait une époque où les hommes de plus de 40 ans y réfléchissaient à deux fois avant d'aller se promener en plein milieu de la nuit. Après 40 ans, on est vieux, et les nouvelles générations éprouvaient un total mépris pour les vieux. Un sombre ressentiment dressait les petits-fils contre les grands-pères, les fils contre les pères. Et ce n'est pas tout. Il s'était créé des espèces de clubs, d'associations, de sectes, dominés par une haine sauvage envers les vieilles générations, comme si celles-ci étaient responsables de leur mécontentement, de leur mélancolie, de leur désillusion, de leurs malheurs qui sont le propre de la jeunesse depuis que le monde est monde. Et la nuit, des bandes de jeunes se déchaînaient, surtout en banlieue, et pourchassaient les vieux. Quand ils parvenaient à en attraper un, ils le bourraient de coups de pied, ils lui arrachaient ses vêtements, le fouettaient, le peinturluraient de vernis, puis l'abandonnaient ligoté à un arbre ou à un réverbère. Dans certains cas, tout à la frénésie de leur rite brutal, ils dépassaient la mesure. Et à l'aube, on trouvait au milieu de la rue des cadavres méconnaissables et souillés. Le problème des jeunes. Cet éternel tourment qui, depuis des millénaires, s'était résolu sans drame, de père en fils, explosait finalement. Les journaux, la radio, la télévision, les films y étaient pour quelque chose. On flattait les jeunes, on les plaignait. Ils étaient adulés, exaltés, encouragés à s'imposer au monde de n'importe quelle façon. Jusqu'aux vieux qui, apeurés devant ce vaste mouvement des esprits, y participaient pour se créer un alibi, pour faire savoir, mais c'était bien inutile, qu'ils avaient 50 ou 60 ans, ça oui, mais que leur esprit était encore jeune et qu'ils partageaient les aspirations et les souffrances des nouvelles recrues. Ils se faisaient des illusions. Ils pouvaient bien raconter ce qu'ils voulaient. Les jeunes étaient contre eux. Les jeunes se sentaient les maîtres du monde. Les jeunes, en toute justice, réclamaient le pouvoir jusqu'à leur tenue par des patriarches. L'âge est un crime, tel était leur slogan. D'où les chasses nocturnes, devant lesquelles l'autorité, inquiète à son tour, fermait volontiers un œil. Tant pis pour eux, après tout, si des croulants, qui auraient mieux fait de rester chez eux, au coin de leur feu, s'offraient le luxe de provoquer les jeunes avec leur frénésie sénile. C'était surtout les vieux, en compagnie de femmes jeunes, qui étaient visés. Alors, la jubilation des persécuteurs ne connaissait plus de bornes. Dans ces cas-là, l'homme était ligoté, roué de coups, tandis que sous ses yeux, sa compagne était soumise par ses contemporains à de longues violences corporelles raffinées de tout genre. Roberto Saggini mesura le danger. Il se dit « Je n'ai pas le temps d'arriver jusqu'à l'auto, mais je peux me réfugier au bar. Ces petits salauds n'oseront pas entrer. Elle, au contraire, elle aura le temps de fuir. « Sylvia, Sylvia » cria-t-il. « Démarre, dépêche-toi, vite, vite !» Heureusement, la fille comprit. D'un coup de hanche rapide, elle se glissa devant le volant, mit le contact, passa en première, et démarra à toute allure en emballant le moteur. L'homme eut un soupir de soulagement. Maintenant, il devait penser à lui. Il se retourna pour trouver son salut dans le bar, mais au même instant, le rideau de fer fut baissé d'un seul coup. « Ouvrez ! Ouvrez » supplia-t-il. Personne ne répondit de l'intérieur. Comme toujours, quand un raid de jeunes se déclenchait, ils restaient tous tapis dans leur coin. Personne ne voulait voir ou savoir, personne ne voulait s'en mêler. Il n'y avait plus un instant à perdre. Bien éclairé par des réverbères puissants, 7, 8 types convergeaient vers lui, sans même courir, tant ils étaient certains de l'attraper. L'un d'eux, grand, pâle, le crâne rasé, portait un tricot rouge foncé où se détachait un grand R majuscule blanc. « Je suis fichu, » pensa Saggini. Les journaux parlaient de ce R depuis des mois. C'était le signe de Sergio Regola, le chef de bande le plus cruel qui soit. On racontait qu'il avait personnellement réglé leurs comptes à plus d'une cinquantaine de vieux.